Qualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes le 8 mars et à l'occasion de la Journée internationale des femmes, RFI vous propose une programmation spéciale toute la journée. Nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios ici à Paris l'une des comédiennes les plus en vue du cinéma français. Elle a travaillé avec des réalisateurs prestigieux comme Michael Haneke ou Claude Berry. On se souvient, en tout cas moi je m'en souviens évidemment, de son rôle dans Les Poupées Russes de Cédric Clapiche. On l'a vu également à l'affiche d'aujourd'hui, le film d'Alain Gomis, lauréat de l'Étalon d'Or de Yenenga au FESPACO, c'était en 2013. Vous l'avez probablement vu dans Bienvenue à Marly Gaumont, où elle incarne l'épouse d'un médecin de Kinshasa qui emmène toute sa famille dans un village du nord de la France. Et en ce moment, elle est un peu partout en France, dans les salles de cinéma, avec une comédie, Il a déjà tes yeux. Bonjour Aïssa Maïga.
Bonjour Juan Gomez.
Vous allez bien ?
J'ai l'impression d'être rentrée dans ma radio. D'habitude, je vous écoute de chez moi.
Ouais.
Et là, je suis là, c'est, eh ben,
vous
c'est
êtes
très
la
sympa.
Bienvenue. Vous êtes bien installée, confortablement installée. Vous avez un casque sur
Merci.
Les oreilles.
Oui, tout va bien.
Parfait, c'est un marathon radiophonique qui vous
oui.
attend. On va vous retrouver tout au long de la journée sur l'antenne des RFI avec des sujets et des invités que vous avez vous-même choisis, puisque vous êtes la rédactrice en chef d'Un Jour. On vous retrouvera par exemple dans une heure dans Priorité Santé pour évoquer l'accès à la contraception dans les pays en développement. Un peu plus tard dans la matinée, dans 7 milliards de voisines, pour débattre autour de l'afroféminisme, le combat des jeunes femmes noires en France. Elle représente quoi pour vous cette journée du 8 mars ?
C'est une journée symbolique qui permet d'apporter un petit peu de lumière sur des combats qui vont tous azimuts, puisque les droits des femmes sont bafoués dans énormément de pays occidentaux, des pays du Sud, africains, enfin, vraiment c'est sur toute la planète, malheureusement. Et ça permet peut-être à certaines personnes d'accéder à certains médias.
Ouais. Vous avez vu la une de Libération quotidien français ce matin ou pas ?
Alors je
vous la montre.
Oui, le torchon rebrûle, féminisme.
Ouais. Ouais,
c'est une belle
rebrûle, une photo en noir et blanc. Ce
et
sont des femmes qui manifestent le poing levé avec une femme en gros plan, un poing levé légèrement flou et en sous-titre contexte politique réac, menace sur l'IVG, élection de Donald Trump cette année, la Journée internationale des droits des femmes est plus que jamais une journée de lutte.
Et c'est d'ailleurs ce qui est rassurant, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'élection de Donald Trump, elle est arrivée, enfin, c'est comme si une forme de nuit s'était abattue et on se sent en danger, qu'on soit femme, enfin, toutes les minorités.
Ouais.
En tout cas, on les appelle comme ça.
Jusqu'à 10h heure de Paris, vous êtes donc la rédactrice en chef d'Appel sur l'actualité. Vous avez déterminé le contenu de l'émission. Parmi les nombreux sujets qui font l'actualité, vous en avez choisi trois sur lesquels vous souhaitez entendre les auditeurs des RFI. D'abord, les coupures d'Internet comme moyen de répression.
Oui, alors d'abord, je tenais à dire que c'est très difficile d'être rédacteur en chef. Je le découvre aujourd'hui avec douleur.
Merci de le reconnaître.
Et alors, je voudrais, parce que j'imagine que certains auditeurs vont se dire, mais pourquoi on n'a pas parlé de ci, de ça, etc. Toutes les questions liées aux droits des femmes sont légitimes. Et bon, là, on parle plutôt d'actualité, donc il ne s'agit pas que du droit des femmes, mais j'avoue que malheureusement, on avait un peu l'embarras du choix. Et concernant les coupures d'Internet comme moyen de répression, en fait, j'ai été frappée par l'espèce d'inertie qu'il y a eu, notamment au Cameroun, et surtout le fait que cette question-là semblait ne pas dépasser les frontières camerounaises, alors que c'est une question de droit citoyen aujourd'hui, l'accès à Internet.
Tout à fait, c'est un droit reconnu par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité de l'ONU, et vous parlez du Cameroun, mais de nombreux pays à travers le monde sont concernés par cette censure de l'Internet. On l'a vu d'ailleurs sur le continent africain à plusieurs reprises l'année dernière. Donc, si vous avez été concerné ou si vous l'êtes en ce moment par la censure Internet, appelez-nous, venez témoigner, racontez-nous. Aïssa Maïga a envie de discuter avec vous. 33 9 693 693 70. Autre sujet, ce sont les manifestations organisé ces dernières semaines en France pour dénoncer les violences policières.
Oui, en fait, il y a eu une sorte de récurrence, enfin des moments qui ont été très douloureux où des jeunes hommes noirs ont été cibles de violences policières, avec parfois une issue absolument tragique, la mort. Et je suis frappée et à la fois rassurée par les mouvements que ça crée. D'ailleurs, il y a une grande manifestation prévue à Paris ce samedi, un mouvement citoyen qui d'ailleurs ne concerne évidemment pas que les Noirs, mais qui vient apporter de la lumière sur quelque chose qui reste encore assez tabou, qui sont les violences policières et la façon dont on peut s'organiser pour faire pression pour que ça cesse.
Phénomène là aussi récurrent en France et on entend et à chaque fois, oui, puisqu'on parle de la France, mais récurrent malheureusement aux États-Unis, on le voit quasiment tous les jours et dans d'autres pays européens, et un silence assourdissant quand même de la classe politique française. On est en pleine campagne électorale et on n'a pas l'impression, en tout cas je n'ai pas l'impression, je ne sais pas si c'est votre sentiment, Issa Maïga, que les candidats à l'élection présidentielle proposent véritablement des solutions pour mettre un terme à ce fléau. On en parlera évidemment avec les auditeurs des RFI dans le courant de cette émission. Et puis un dernier sujet, nous sommes à quelques jours après la fermeture du FESPACO, Festival Panafricain du Cinéma à Ouagadougou. Vous avez envie de parler de cinéma africain avec les auditeurs?
Oui.
C'est très bien.
Oui, bah voilà. Voilà. Oui, j'en ai très envie parce que, d'abord, j'ai eu la chance de jouer dans quelques films africains. J'ai la chance aussi d'avoir des amis qui sont des cinéastes, des scénaristes, des comédiens africains. Et cette question-là de savoir comment le cinéma africain peut réémerger véritablement sur la scène internationale me passionne.
Bon, là aussi, vous êtes concerné par ce sujet, appelez-nous 339 693 693 70. Avant de passer au standard et de lancer les différents débats, on a plutôt l'habitude, Issa Maïga, de vous entendre dans des émissions, on va dire, un peu plus culturelles. Quel est votre rapport à l'actualité? Est-ce que vous êtes une mordue de l'actualité, de l'information?
Oui, en fait, j'avoue que la première chose que je fais en me réveillant...
Mais ce n'est pas mal.
Je me sens un peu coupable, parce que normalement, on ne devrait pas se réveiller, allumer le portable et aller tout de suite sur les sites d'infos. On devrait se réveiller tranquillement, prendre le temps, et ensuite, à un moment, voilà. Mais alors donc, je suis un petit peu addict, et je le fais plusieurs fois par jour. Alors, maintenant qu'en plus, on a ce petit engin qui s'appelle un smartphone sur lequel on peut recevoir toutes les infos, c'est vrai que c'est difficile pour moi de ne pas aller chercher l'info toute la journée, en même temps que je déplore le fait que l'info soit traitée de façon un petit peu dans l'urgence, dans la réaction, et que avoir accès à de l'info vraiment de fond, à de l'analyse fine, posée, avec du recul, c'est quelque chose qui me semble beaucoup plus difficile qu'auparavant.
Bah écoutez, RFI tout au long de la journée, on prend du recul sur l'information, on prend le temps de décrypter l'actualité, c'est ce qu'on fait d'ailleurs tous les matins dans cette émission, donnant la parole aux auditeurs afin qu'ils nous appellent pour poser des questions, et la rédaction évidemment se mobilise pour y répondre. Vous êtes ambassadrice de la Maison des journalistes qui accueille à Paris des journalistes qui ont fui leur pays tout simplement pour avoir exercé leur métier. La liberté de la presse, c'est un sujet évidemment qui vous tient à cœur. Pourquoi avoir accepté d'être ambassadrice de la Maison des journalistes?
D'abord, en tant que fille de journaliste, évidemment, il y a une subjectivité que je ne peux pas nier, une sensibilité quant au sort des journalistes, aux moyens de répression qui sont parfois utilisés contre les journalistes.
Et vous savez de quoi vous parlez?
Et je sais de quoi je parle, puisque mon père était journaliste, qu'il a travaillé, il était malien, mais il était très impliqué aux côtés de Thomas Sankara pendant la révolution.
Président du Burkina Faso.
Au Burkina Faso dans les années 80. Et il a disparu dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. Et donc, mis à part cette part douloureuse, subjective, liée à mon enfance, etc., il y a évidemment le regard citoyen qui est le mien et que, voilà, qui est quelque chose qui est assez partagé. Et il y a donc, en France, à Paris, une maison des journalistes qui fait un travail formidable. Je fais partie des 30 ambassadeurs, 15 hommes, 15 femmes.
Je crois qu'il y en a 32, si je peux me permettre. 16 hommes, 16 femmes, non?
On n'est pas 15 et 15?
Je crois que c'est 16 et
16. Du moment que la parité,
enfin,
la parité est respectée,
c'est important.
Je pense qu'on peut ne pas chipoter. Ouais. Et en fait, cette maison fait un travail formidable, puisqu'elle a vocation à accueillir dans ses murs des journalistes qui, dans leur pays, ne peuvent plus exercer leur métier du fait de pression. Et donc, il y a des gens qui viennent de beaucoup d'endroits, d'Afrique, d'Amérique.
Et on a constaté ces dernières années de plus en plus de femmes.
De plus en plus de femmes journalistes.
Exactement, et notamment ces derniers mois, notamment des femmes rwandaises et burundaises qui ont dû donc fuir leur pays. La maison des journalistes, je le précise, c'est important de le rappeler en cette journée du 8 mars, elle est présidée par une femme d'origine haïtienne, Darline
Gauthier,
exactement.
Oui. Donc je salue le travail, parce qu'avec peu de moyens, ils font beaucoup. Et ces journalistes-là, bon, ils ne peuvent pas toujours continuer à exercer leur métier, puisqu'il y a parfois la barrière de la langue, ils ne parlent pas toujours français lorsqu'ils arrivent, mais en tout cas, c'est un endroit dans lequel ils peuvent d'abord être en sécurité, et puis prendre le temps de retrouver une situation digne de ce nom.
On lance le premier débat, Issa Maïga, coupure d'internet comme moyen de répression avec en toile de fond, vous le disiez à l'instant, la situation dans l'ouest du Cameroun. Cela fait maintenant quasiment 2 mois jour pour jour que les deux régions anglophones sont privées de réseau. C'est un moyen de finalement pour les autorités de faire pression sur le mouvement de contestation qui a lieu dans ces deux régions du Cameroun. Des anglophones qui se disent marginalisés par rapport aux francophones, ils appellent donc à la mobilisation, à des manifestations, à des journées villes mortes. Le seul moyen qu'ont trouvé les autorités camerounaises pour essayer de mater ou en tout cas de canaliser cette contestation et donc de fermer le réseau internet. Alors il se trouve qu'on a, et ça tombe bien, on va commencer avec cette auditrice Josiane qui nous appelle de Yaoundé. Alors Yaoundé, ce n'est pas la partie anglophone, elle a donc accès à internet, mais vous aviez envie de prendre la parole, Josiana, ce matin sur l'antenne d'RFI. Bonjour. Allô ? Ah, alors est-ce qu'on a Josiana ou pas ? Alors on va essayer de la retrouver.
Est-ce qu'ils ont coupé le téléphone ?
Non, parce que j'ai entendu, elle a peut-être posé le téléphone à mon avis, j'ai entendu du bruit derrière. Ouais. Patrick, vous êtes à Libreville, bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute avec Aïssa Maïga, vous souhaitiez témoigner de la situation dans votre pays, le Gabon.
Ah oui, c'était tout simplement pour dire que les Gabonais ont pris l'habitude de pratiquer les réseaux sociaux et à l'issue de la crise de post-électorale de 2016, il y a eu une coupure d'Internet et ça a été vraiment un moment difficile pour les populations parce que ce sont des espaces de communication qui nous permettent d'échanger et d'être au fait de ce qui se passe au quotidien dans notre société. Et à l'issue des élections, on a bien voulu être au fait de ce qui se passe dans telle ou telle zone du pays, mais malheureusement, lorsqu'Internet a été coupé, c'était difficile et on était plus ou moins coupé. C'est pour ça que j'ai qualifié cette situation de psychodrame. Psychodrame parce que véritablement, les gens étaient coupés de toute information. On ne savait pas ce qui se passait par exemple à Franceville, tout simplement parce qu'on n'avait pas accès à toutes ces informations. Vous savez, la pratique de WhatsApp, Facebook et autres, ce sont des moyens de communication très usités à Libreville et au Gabon en général, parce que là, avec Internet 4G, c'est quand même assez dense, assez rapide. Donc voilà, c'était une situation assez dramatique.
Oui. Vous l'avez vécu comme un psychodrame, c'est ce que vous disiez à l'instant, voilà. Patrick. Il faut quand même rappeler que les autorités ont décidé à l'époque de fermer le réseau Internet après les violentes manifestations qui ont suivi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle en septembre dernier. Pour vous, ça a été plus une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de communication, ou peut-être malgré tout une volonté justement de calmer la situation pour les autorités ?
Quand même la situation, je crois qu'il y avait déjà des moyens qui ont été mis en œuvre pour calmer la situation, notamment le déploiement des forces de sécurité à travers tout le territoire. Donc la communication devait continuer à fonctionner, mais malheureusement on n'a pas compris pourquoi les réseaux sociaux ont été suspendus à un moment.
Ouais. Tout simplement. Aïssa Maïga, voilà. Couper Internet, c'est violer l'état de droit pour vous ?
Oui, parce qu'aujourd'hui une partie des mobilisations citoyennes se font par le net, ce monsieur disait que WhatsApp, moi je le vois bien parce que c'est de cette façon-là qu'aujourd'hui on fait exploser les frontières et on fait accélérer le flux des informations entre militants notamment. Donc il me semble que c'est évidemment un moyen de répression et que les citoyens doivent pouvoir se mobiliser pour que ce droit soit garanti.
Effectivement, et vous disiez tout à l'heure être surprise, étonnée par l'indifférence générale que suscite par exemple en ce moment la coupure d'Internet au Cameroun. Josiana, vous êtes justement sur place au Cameroun, bonjour. Bon, alors on a définitivement un problème avec Josiana, je ne sais pas ce qui se passe. On va accueillir un autre auditeur au 339-693-693-70. Carmel, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RFI, Carmel.
Bonjour, Rouané, bonjour, et je veux saisir cette occasion pour rendre d'abord hommage à toutes les femmes, à commencer par les légendaires Jeanne d'Arc, Rosa Parks, et en passant, et il y a aussi des femmes tchadiennes, on a Kem Nelum qui s'est battue pour les victimes de la dictature au Tchad. Mais moi, j'ai appelé pour réagir par rapport aux coupures des réseaux, et l'importance que les réseaux peuvent jouer, parce que nous avons connu un cas de viol au Tchad, et pendant ce cas de viol, c'est les réseaux sociaux qui ont permis de briser le silence, de faire tomber le tabou sur les viols. Dans presque toutes les familles, il y a eu des cas de viol, et généralement, ce sont les dignitaires ou les fils des dignitaires qui les commettent. Et la mobilisation a été tellement forte que même le président de la République a qualifié cet acte de ignoble et vraisemblablement il a utilisé aussi les réseaux sociaux pour compatir, pour réagir, pour condamner. Donc pour nous, ça a été un tournant.
Ouais, un tournant. Vous avez entendu, Aïssa Maïga, cette affaire qui a défrayé la chronique. On en a beaucoup parlé sur l'antenne des RFI l'année dernière. Cette jeune lycéenne, Zoura, 16 ans, violée par 5 lycéens. Ils se sont crus très malins après, en postant sur Facebook et notamment sur cette fameuse application WhatsApp, des photos et des vidéos de ce viol. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que évidemment, énormément de Tchadiens ont vu cette vidéo sur le réseau social WhatsApp. Un journaliste a décidé de publier la vidéo sur Internet pour faire pression justement sur le gouvernement afin qu'une enquête soit ouverte, que les présumés violeurs soient poursuivis, interpellés, surtout que notre auditeur nous le disait à l'instant, c'était des fils de dignitaires, fils de généraux et fils d'un ministre en l'occurrence. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que les autorités ont décidé de fermer Internet après la forte mobilisation que cela a suscité à travers le pays. Carmel.
Plus rien ne sera comme avant, ils ont coupé les internets, mais il y a des applications qui s'appellent VPN, qui a permis aux gens de se connecter, de partager les informations, et ils ont maintenu la pression jusqu'à ce que ces enfants soient appréhendés, condamnés, mais comme toujours, il y a l'impunité, ils ont fini par s'évader, mais plus rien ne sera comme avant. Et depuis cette fermeture, les organisations des droits de l'homme, qui ont considéré comme la communication, le droit à l'accès à l'information comme un droit, ont fait pression sur le gouvernement, et ça a continué jusqu'aux échéances présidentielles. Mais désormais, l'internet est libre et accessible, et les informations circulent, et c'est tant mieux pour l'humanité et pour le Tchad, j'allais dire.
Aïssa Maïga, une réaction?
Ce qui est toujours frappant dans ces histoires de viol, c'est à quel point, en fait, ce sont les victimes qui portent le poids de la honte, le poids du secret. Et là, ce qui est vraiment très fort, c'est le fait qu'un journaliste arrive à faire changer la donne.
Ouais. Un journaliste vivant à l'étranger, ce n'était pas un journaliste.
Il était tchadien, il vivait à l'étranger.
En France.
Et que d'un seul coup, les autorités commencent à trembler et que la pression citoyenne soit telle qu'ils soient obligés de réagir et qu'on se dise qu'en fait, enfin, la peur va changer de camp et que les coupables vont peut-être, alors là, visiblement, dans cette affaire-là, c'est pas tout à fait le cas, être jugés.
Alors ils ont été jugés, il se
mais
trouve.
Finalement.
Ils ont été jugés et condamnés à 10 ans de prison.
Ah d'accord.
Voilà, bon, ça c'est le fin mot de l'histoire.
Donc on peut considérer que justice
mais
a
en tout cas, là pour le coup, Internet et les réseaux sociaux ont permis de faire pression sur les autorités et ont permis effectivement d'interpeller ces jeunes violeurs. On repasse au standard, il nous reste 3 minutes avant de marquer une pause et de retrouver la rédaction pour un point complet sur l'actualité. Blaise, bonjour.
Bonjour à la RFI et à tous les auditeurs à travers le monde.
Vous êtes à Kinshasa en République démocratique du Congo. On vous écoute avec Aïssa Maïga.
Effectivement, en Afrique noire, plus particulièrement, en fait, coupure des réseaux sociaux, c'est le quotidien. Et quand vous voyez ce qui s'est passé dans l'Afrique du Nord, avec le printemps arabe et autres, tout ça, les autorités africaines ont vraiment peur. Et à chaque grande contestation, la cible numéro un sur laquelle ils s'attaquent, c'est souvent les réseaux sociaux, parce qu'ils savent bien qu'il y a la communication, il y a l'échange d'informations et autres. Alors, ils s'attaquent directement. Et c'est comme ça, c'est qui fait que les Africains, particulièrement le Congolais, sont privés de l'information.
Ouais, vous-même, vous avez été victime des coupures d'Internet?
Pas personnellement, mais le Congolais en général. Je prends l'exemple, lorsqu'il y a eu contestation par rapport à la fin du mandat du président de la République, l'Internet était coupé. Entre nous, c'était difficile d'échanger les informations. Chez nous, par exemple, ce qui est à la mode, vous prenez l'exemple de WhatsApp, par exemple. Et lorsque vous avez décidé de communiquer en groupe, ça devient dangereux. Une fois qu'on a besoin de mettre la main sur vous, on s'attaque sur le groupe et directement on peut vous avoir facilement.
Bien sûr.
Alors on est pris d'eau quand il y a coupure.
D'accord. Vous évitez d'être sur des groupes WhatsApp pour éviter qu'on vous retrouve. Aïssa Maïga, en tout cas ce qui est formidable avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils permettent de publier des documents qui peuvent faire pression sur les autorités, de publier des informations, de diffuser des photos. On l'a vu notamment avec ce cas cité tout à l'heure par un auditeur tchadien. Vous restez avec nous Aïssa Maïga.
Oui.
On va poursuivre cette émission dans 10 minutes juste après le point complet sur l'actualité. On parlera des violences policières et de la promotion du cinéma africain. Ce sont les deux sujets qui vont nous occuper la prochaine demi-heure.
Priorité santé. Sandrine.